chers amis, et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité tchèque du week-end de Radio Prague. Au programme de très intéressants reportages aujourd'hui. Nous allons tout d'abord vous présenter un entretien réalisé avec le musicologue français Nicolas Derny, qui a écrit une biographie sur Vítězslava Kapralová, compositrice et première femme chef d'orchestre du début du XXe siècle, décédée à l'âge de 25 ans seulement à Montpellier. Puis dans la seconde partie de notre émission, nous allons retrouver la rubrique littéraire de Václav Richter qui vous dévoilera la deuxième partie de l'entretien réalisé avec l'écrivain de renommée internationale, mais aussi cinéaste et plasticien Jean-Philippe Toussaint, qui était récemment de passage à Prague pour présenter son site internet conçu comme une œuvre d'art. Très bonne écoute à toutes et à tous. Qui connaît en France, ou plus largement dans les pays francophones, Vítězslava Kapralová, compositrice tchèque de talent à la carrière foudroyée par la maladie, première femme chef d'orchestre dans un monde exclusivement masculin, muse du compositeur Bohuslav Martinů, Vítězslava Kapralová a connu un destin digne d'un roman. C'est tout le mérite du récent ouvrage du musicologue belge Nicolas Derny de faire sortir son nom des oubliettes et de nous faire découvrir le parcours exceptionnel de cette jeune femme ambitieuse et passionnée. Vítězslava Kapralová, portrait musical et amoureux, est sorti début avril aux éditions Le Jardin d'essai. Érudit au niveau musicologique, l'ouvrage de Nicolas Derny peut toutefois très bien être lu par tout un chacun, tant le récit de la vie de Vítězslava Kapralová est captivant. Anna Kubešta s'est entretenue avec Nicolas Derny et lui a demandé ce qui avait été à l'origine de son envie d'écrire ce portrait intimiste.
Culture sans frontières.
C'est une personnalité qu'on croise dans les biographies de Bohuslav Martinů. On nous dit en général qu'elle était géniale, qu'elle était irrésistible et qu'elle est morte très jeune. C'est un destin tragique. Alors, géniale et irrésistible, moi, ça me suffit pour m'intéresser à la personnalité. Et effectivement, quand on creuse un peu, on trouve une personnalité très, très intéressante, très riche, qui avait effectivement un charme fou, qui avait effectivement du génie, qui lui autorisait d'avoir un culot monstre pour s'imposer partout. Et c'est donc une personnalité qu'il fallait absolument redécouvrir, d'autant que personne ou presque ne la connaissait, surtout en pays francophone, alors qu'elle a vécu à Paris les deux ou trois dernières années de sa vie.
Alors, comme vous le dites, en effet, elle a eu un destin assez fulgurant, éphémère, mais intense. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine façon, qu'elle est une enfant de la Première République tchécoslovaque, un peu comme la Première République tchécoslovaque a aussi une vie très courte, finalement, entre les deux guerres?
C'est un enfant de l'entre-deux-guerres. Elle est née en 1915 et elle est morte en 1940. C'est effectivement c'est un hasard, mais c'est une période qui est effectivement très représentative. Et elle n'a pas vécu la Seconde Guerre mondiale, hélas, puisque elle meurt juste avant le début, mais elle a vécu quand même les accords de Munich. Elle a pu voir toute cette période très troublée qu'elle a vécu ici, alors que Martinou, lui, était coincé, si je puis dire, de l'autre côté, donc en France et en Suisse à l'époque de la signature même. Et donc, ils étaient séparés l'un de l'autre. Elle ne savait pas si elle allait pouvoir revenir en France parce que Martinou, lui, attendait que sa bourse à elle soit renouvelée, mais ça posait des problèmes ici. Et finalement, elle pourra retourner en France et elle finira, hélas, sa vie là-bas en ayant épousé un autre, hélas aussi pour Martinou qui a mal digéré la chose.
On pourra revenir là-dessus. C'est vrai que quand on lit votre ouvrage, on se rend compte que c'est une jeune femme qui a suscité des amours de diverses personnalités. Vous parlez de Martinů, Jiří Mucha, mais elle a fait tourner beaucoup de têtes en tout cas.
Mucha qu'elle a épousé, mais ça aurait très bien pu être un autre parce qu'à cette époque-là, elle a parfois deux, trois, voire quatre personnes qui voudraient l'épouser, donc c'est un peu, elle n'a que l'embarras du choix.
Pour revenir un petit peu au début de sa vie si courte, en effet, c'est une enfant précoce, d'après ce que j'ai pu comprendre. Elle joue de la musique très tôt, elle vit de la musique très tôt.
Effectivement, vous savez que les biographes aiment toujours trouver dans l'enfance de leurs héros les prémices de leur génie. Ici, elle ne vit que 25 ans, mais effectivement, dès ses 8-9 ans, elle commence à composer des petites choses qui sont pas géniales, évidemment, ce sont des choses d'enfant. Mais on a déjà tout l'imaginaire qu'elle va développer plus tard dans ses mélodies chantées, notamment, avec des éléments descriptifs qui vont lui servir après à alimenter ses mélodies pour donner un... Parfois faire même passer des messages cryptés dans la musique. Il faut savoir lire entre les lignes, lire entre les portées aussi, lire entre les notes pour comprendre ce qu'elle veut dire. Mais déjà, tout ça se trouve dans ses pièces enfantines, souvent composées dans l'état traslovaque où elle était au sanatorium, puisque de santé fragile déjà dès le départ. Et donc, éloignée de ses parents, qu'est-ce qu'il lui restait à faire ? Eh bien, composer un peu de musique.
Alors justement, ses parents, puisque vous en parlez, ce sont eux-mêmes des musiciens. Donc bon, il y a quand même un environnement musical autour d'elle.
Elle est la fille, oui.
Ne donne nulle part.
Elle est la fille d'un compositeur, élève lui-même de Janáček. Donc on a une filiation là, mais elle ne prendra pas la suite de son père. Et son père ne prend pas la suite de Janáček, puisqu'il va étudier aussi avec son ennemi juré à Prague, qui est Vítězslav Novák. Mais effectivement, elle est bénie dans ce monde-là. Sa mère est chanteuse. Ses parents vont se séparer très vite, mais... Ils gardent les contacts pour justement pouvoir développer l'éducation de leur fille et l'éducation musicale. Mais son père, à elle, sachant très bien que c'est une jeune femme et que la carrière de compositrice et de chef d'orchestre à laquelle elle aspire étant à l'époque inaccessible totalement à une femme, c'est encore presque le cas aujourd'hui. À l'époque, surtout en République tchèque, c'était du jamais vu. Ça a été la première et c'était peut-être même la dernière pour longtemps. Mais son père a essayé de la dissuader d'entrer au conservatoire, sachant très bien que la carrière lui serait presque inaccessible si tout se passait comme lui l'envisageait. C'était sans compter son charme et sa détermination et son ambition dévorante, parce que je pense qu'elle a fait tout ça non pas par conviction féministe, mais par pure ambition personnelle, mais qui était effectivement dévorante. Elle a su développer ses réseaux, elle a su se faire respecter aussi des orchestres exclusivement masculins qui ont vu ce petit bout de femme arrivait en disant « qu'est-ce que c'est que ça ?» Surtout que c'était une débutante de 20 ans, même pas. Encore aujourd'hui, 20 ans pour un chef, c'est un bébé. Donc à l'époque, pour une femme en plus. Et finalement, à la fin des répétitions, ils étaient tous admiratifs, ils l'applaudissaient. Et elle avait à chaque fois conquis son orchestre et puis le public derrière.
Alors évidemment, je ne veux pas forcément rentrer dans le détail très technique, puisque ni moi-même, ni peut-être certains auditeurs ne sont spécialistes musicologues, mais est-ce que vous arriveriez un petit peu à caractériser ses compositions, sa création pour quelqu'un qui serait laïque ?
Alors, elle est très jeune quand elle commence, et elle est très jeune quand elle finit, puisque, je vous le disais, elle est décédée à 25 ans. Donc elle a absorbé les différents langages de ses différents professeurs au fil des époques, qui n'est pas le même forcément. Elle part d'une musique romantique teintée d'impressionnisme, c'est-à-dire de musique française, un peu d'accord à la Debussy. Et puis, sous l'égide de Martineau à Paris, qui lui est passé par toutes les phases aussi, romantique, jazz, folklore, et maintenant néoclassicisme, elle va passer à un néoclassicisme qui est donc ce retour aux formes baroques, à l'idée de la musique baroque mise au goût du jour, évidemment. Et donc, elle terminera comme ça. Mais si elle avait vécu plus, elle aurait certainement continué ses avancées dans les recherches de langage, parce qu'elle est en constante évolution, en constante recherche. Et donc, on a des imaginations en écoutant sa musique. On voit ici Stravinsky, on voit ici Martinu, on voit ici d'autres. Mais c'était quand même un langage très personnel qui, même s'il évolue en fonction du langage de ses professeurs dont elle absorbe l'influence, c'est un langage en perpétuelle évolution. Et donc, que serait-il advenu ? On n'en sait rien. Et là, ça devient de la musicologie fiction. Et là, ne comptez pas sur moi pour faire ça.
Une chose qui m'a frappée en lisant votre ouvrage, c'est qu'elle met en musique beaucoup de poésie. Il y a un lien très fort entre la poésie et les poèmes et sa musique. Et puis, c'est des poètes souvent qui sont très connus, hein, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, qui plus tard sera prix Nobel de littérature. Il y a vraiment un lien très fort.
D'abord, elle a bon goût, effectivement, en termes de choix de texte. Mais surtout, ses choix de texte sont aussi corrélés avec sa vie. C'est-à-dire que ses états d'âme passent dans le choix des textes. Parfois, c'est même l'occasion d'envoyer une petite pique à tel ou tel, parce que le texte parle parfois d'un homme qui abandonne sa femme. Alors ça, c'est une petite pique à son père qui était parti avec une autre femme et qui avait abandonné sa mère. Et donc, elle adore son père, mais elle ne lui a jamais pardonné, peut-être. Surtout, elle choisit aussi des auteurs qui sont des auteurs, disons, politiquement placés à gauche, qui sont sa conviction personnelle aussi, même si elle va tomber amoureuse d'un tchèque qui, à un moment, lui fera l'apologie du fascisme parce que d'extrême droite. Et là, on peut comprendre qu'elle était attirée uniquement physiquement parce que elle, les idées, c'était la gauche. Elle était complètement de gauche. Elle voit dans le socialisme la prolongation de l'action du Christ, pensez donc. Et donc, ces textes aussi sont des choix de poètes de gauche qui reflètent aussi ses idées.
Alors, vous dites qu'elle est de gauche, mais elle est aussi, selon moi, très patriote, hein, tchèque patriote, puisque la Sinfonietta, comment dire,
Sinfonietta
oui. Militaire, elle l'a dédiée à Édouard Benesch. Elle a écrit aussi une composition sur la bataille de la Montagne Blanche, si je ne me trompe pas, ou sur les guerres
enfant,
hussites,
oui.
etc. On a l'impression que justement tout toute l'histoire tchèque et ce qu'a subi d'une certaine manière aussi le peuple tchèque avant de retrouver son indépendance, c'est quelque chose qui est très important pour elle aussi.
Je crois qu'à l'époque, on n'a pas le choix. En tout cas pour les Tchèques, Martinů étant à Paris, étant aussi finalement nationaliste tchèque même de plus loin, mais il sera sur la liste noire des nazis aussi pour avoir été propagandiste tchèque. Je crois qu'à l'époque, effectivement, on n'a pas le choix, mais c'est peut-être pas sa préoccupation première dans le choix des textes. La Sinfonietta militaire, c'est le titre de la Sinfonietta de Jana Tchèque. Aujourd'hui, on la connaît sous le titre de Sinfonietta tout court, mais c'était aussi Sinfonietta militaire. Donc Jana Tchèque était évidemment un patriote très ardent. Je ne pense pas que ce soit si ardent pour elle, mais comme la Tchécoslovaquie se trouve malmenée à l'époque où elle se trouve en plus à Paris éloignée, c'est effectivement un message envoyé à ses compatriotes de Paris et d'ici.
On le disait tout à l'heure, il y a deux grandes rencontres quand même dans sa vie, donc c'est Bohuslav Martinů et Jiří Mucha. C'est deux personnalités complètement opposées aussi.
Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas difficile d'être opposé à Martinů parce que lui est complètement taciturne. Quand vous entendez des interviews de Martinů qui existent encore à la radio, les questions sont beaucoup plus longues que les réponses parce qu'en général, il répond oui ou non, point barre. Il était comme ça dans la vie. Et c'est son exact opposé à elle qui, elle, est volubile, est bavarde et la joie de vivre incarnée. Il disait c'est mon soleil. Lui, ce n'est pas vraiment un soleil, ce serait plutôt un nuage. Donc, ce sont deux personnes déjà antagonistes et qui se rencontrent et qui se plaisent, mais ils ont 25 ans d'écart.
Et il est marié ?
En plus, mais ça n'a pas l'air de le gêner beaucoup. Mais ils ont 25 ans d'écart. Elle hésite à un jour l'épouser parce qu'elle l'admire artistiquement parlant. C'est un mentor, c'est un ami proche. Ils ont eu sûrement une histoire entre eux. Hein. J'étais pas dans la chambre. Mais enfin, les connaissant chacun, je ne peux pas imaginer que ce soit passé autrement.
Et puis c'est une femme passionnée, visiblement.
Et c'est une femme passionnée qui ne fait jamais les choses à moitié. Et puis elle rencontre effectivement Mucha.
Le fils d'Alphonse Mucha.
Voilà, exactement. Elle le rencontre à Saint-Germain-des-Prés, donc on est au café Bonaparte. C'est le coup de foudre, puisque dans son journal, on trouve le jour de leur rencontre, passer la nuit avec Jiří. Et puis ce sera une histoire aussi passionnée, avec parfois des ruptures, mais finalement le mariage, au bout du compte, c'est pas passé loin, parce que 4 jours plus tôt, elle avait prévu de se marier avec un autre qu'elle venait juste de rencontrer. Elle avait aussi le coup de foudre, donc on voit que vraiment, ça peut changer au gré des humeurs, mais il l'épousera. Mais lui, étant stationné dans le sud de la France, puisque engagé dans l'armée tchèque en exil, ils se sont séparés juste après leur mariage, finalement. Donc, ils n'ont pas vécu conjugalement ensemble, ils n'ont pas eu le temps.
Elle a vécu à Paris un certain temps. Quelle est sa vie là-bas, justement? Que fait-elle? Quel est son travail?
Elle vient pour étudier avec Nadia Boulanger et Charles Munch à l'École normale de musique. Elle étudie effectivement avec Charles Munch la direction d'orchestre. Or, Nadia Boulanger n'étant pas souvent présente à Paris à l'époque, et puis il y a la barrière de la langue. Kapralova, elle arrive en parlant un tout petit français. Avec Munch, ils peuvent parler en allemand, mais avec Boulanger, c'était plus compliqué. Mais quelle aubaine pour Martinů, qui va récupérer l'élève, et donc elle va étudier avec lui. Elle va travailler la composition en regardant Martinů composer. Et puis le reste du temps, évidemment, ce sont les sorties culturelles, parce qu'elle découvre la vie culturelle parisienne qui est évidemment débordante. Elle fréquente toute cette petite colonie de Saint-Germain, cette petite colonie tchèque pleine d'artistes à Saint-Germain. On pense à Rudolf Kundera, qui est le peintre qui se trouve là à l'époque, qui lui présente Mucha, qui est son ami proche. Vraiment, c'est une vie bouillonnante, certaines aussi périodes de dépression, parce que éloignée de son chez-elle, sachant que les choses tournent mal, éloignée de ses parents. Et elle pense revenir à Prague, puisqu'elle a une bourse pour 1 an, donc elle passe 1 année, puis elle revient. Elle veut faire renouveler sa bourse, mais ça se passe moins bien que prévu, donc elle mettra plus de temps à revenir à Paris. Et elle finira donc dans le sud de la France, puisque tombée malade à Paris, Mucha l'a fait transférer à Montpellier, mais ce sont juste ses derniers jours. Et elle meurt à Montpellier, c'est impossible de rapatrier sa dépouille en Tchéquie, on est en 1940, donc c'est trop tard pour faire passer le cercueil. Donc il faut l'enterrer à Montpellier. On la réenterrera plus tard, en 1946 seulement, en Moravie.
Pour terminer, je voulais vous demander un petit peu quel est, selon vous, l'héritage de Vítězslava Kapralová.
Je vous disais, c'est plus par ambition personnelle qu'elle fait tout ça que par conviction féministe. Et donc elle n'a pas milité pour les femmes particulièrement. Elle militait surtout pour elle. Elle disait elle-même, je suis d'une arrogance terrible. Bon, Mais effectivement, c'est un personnage qui a surtout fasciné les gens qu'elle a rencontrés, dont quelques compositeurs qui lui ont rendu des hommages, dont des artistes, on pense au fameux portrait de Rudolf Kundera qui la dessine en train de diriger. C'est une personnalité qui est fascinante, mais je pense pas qu'elle ait laissé une trace. Elle n'a pas eu le temps de laisser une trace dans l'histoire pour les générations futures. Mais tous les gens qui l'ont rencontrée ont été tellement ébahis par elle que personne ne l'a oubliée. Beaucoup lui ont rendu hommage dans leurs propres œuvres, même des peintres. Aujourd'hui encore, on a des gens qui, que ça inspire, que la personnalité inspire, qui font des œuvres d'art sur son portrait ou quelque chose comme ça. Mais d'héritage musical, pas vraiment, puisqu'elle n'a pas eu le temps de développer un langage personnel complètement.
La rubrique littéraire de Václav Richtel sera réservée aujourd'hui à la suite d'un entretien avec un des auteurs les plus remarquables de langue française de notre temps, Jean-Philippe Toussaint.
Rencontre littéraire. Écrivain de renommée internationale, Jean-Philippe Toussaint ne se limite pas à la littérature et ses activités s'étendent à plusieurs domaines. Il est également cinéaste, photographe et plasticien qui mène ses riches activités dans plusieurs pays. Récemment, il est venu avec ses collaborateurs à Prague où il a présenté son site internet conçu comme une œuvre d'art. Voici la seconde partie de l'entretien que Jean-Philippe Toussaint a accordé à cette occasion à Radio Prague. Vos voyages vous ont amené dans de nombreuses villes, Berlin, Rome, Tokyo et aussi à Prague. Vous avez rapporté de votre première visite à Prague un mauvais souvenir que vous évoquez dans votre livre Autoportrait à l'étranger, n'est-ce pas ? Prague vous donne toujours cette mauvaise impression ?
Oui, de façon très impertinente, le chapitre qui s'appelait Prague commence par cette phrase « Prague, n'en parlons pas ». Le chapitre consacré à Prague se passe pratiquement entièrement dans la gare de Dresde, c'est-à-dire en route vers Prague. Et oui, je dois dire que j'ai été déçu par Prague lors de mes premières visites. Et il se trouve que hier, je suis arrivé à Prague hier après-midi, et on est parti du château pour descendre dans la ville, et on a fait une longue promenade d'une demi-heure. La nuit venait de se coucher, puis on a été mangé dans un excellent restaurant de Prague, et puis on est remonté à pied. Et je n'avais jamais eu ce sentiment de calme, de beauté. J'ai découvert la beauté, le charme de Prague, et je l'ai découvert donc à 57 ans, parce que j'étais beaucoup plus sévère avant. C'est un peu une sorte de rendez-vous manqué avec Prague. Mais il se trouve qu'il y a aussi ma traductrice tchèque, Jovanka Sotolova, qui a traduit tous mes livres depuis le début, qui a été présente à toutes les rencontres de Senef en Belgique, où je travaille avec mes traducteurs, qui est devenue une amie, qui a travaillé aussi au site internet que je fais. Et c'est pour ça qu'on est à Prague aujourd'hui. Donc et ben voilà, finalement, j'ai finalement découvert la beauté de la ville. Il a fallu le temps, mais c'est une vraie révélation. Et puis, je dirais même, bon, c'est un détail, mais le beau temps d'aujourd'hui, alors qu'en plus la météo annonçait du mauvais temps, le beau temps d'aujourd'hui est une très très bonne surprise.
Vous avez été traduit dans une vingtaine de langues. Comment expliquez-vous cette réception favorable de votre œuvre dans le monde ?
C'est surtout en Asie que ça a été surprenant. C'est l'accueil extraordinaire qui a été fait à mes livres au Japon au début des années 90, qui était le pays au monde où je vendais le plus de livres, un succès incroyable pour mes premiers romans, La salle de bain, Monsieur, L'appareil photo, qui ont été un succès incroyable au Japon, qui m'a fait découvrir le Japon, parce que c'est à cause de ce succès que j'ai été invité, que les universités faisaient appel à moi, que l'éditeur m'invitait à chaque sortie de nouveaux livres, que mes films sont sortis au Japon. Donc le succès de mes livres au Japon m'a fait connaître mieux le Japon. Donc c'est un peu mystérieux ce succès, mais il se trouve que ce succès au Japon s'est répété en Chine. C'est également le cas en Corée, donc il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux. Mes livres sont très bien reçus en Asie. Alors, une des explications, c'est que peut-être je m'intéresse à des choses très quotidiennes, mais qui en même temps, il y a une dimension métaphysique, il y a une dimension philosophique ou universelle. Et ce mélange-là, c'est peut-être une des choses qui peut expliquer le succès que mes livres ont rencontré en Asie.
Quand vous écrivez, pensez-vous à ceux à qui vous allez adresser votre livre? Est-ce que vous vous adressez à un public international?
Oui et non, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une sorte de lecteur idéal, mais je ne le définis pas vraiment. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce n'est pas centré sur un lecteur français ou francophone. Je sais que mes livres sont traduits, ils ont toujours été traduits, enfin, à part le premier que j'ai écrit. Je m'adresse à un lecteur universel qui n'est ni chinois, ni tchèque, ni français, ni américain. C'est un homme. Un être humain. Et je parlais à propos de Beckett d'une fraternité humaine. C'est un peu ça que j'essaye de créer. J'aimerais créer avec le lecteur une fraternité humaine et qui n'a rien à voir avec la langue proprement dite, qui est au-delà de la langue. C'est qu'il y a des caractères, il y a un caractère universel dans certains traits humains. Et c'est ça que j'essaye de créer avec le lecteur, une complicité humaine.
Vous avez parlé de votre traductrice en tchèque, Jovanka Šotolová. Surveillez-vous les traductions de vos œuvres?
Oui, non, je ne surveille pas. D'ailleurs, je n'aurais pas les moyens de surveiller. Par contre, je suis très attentif et très actif, surtout au collège de Senef, en Belgique, qui accueille des traducteurs. Et grâce à Françoise Villemar, qui est la directrice de ce collège, j'ai pu depuis 2000 faire 5 sessions de travail avec mes traducteurs autour d'un livre particulier. Donc par exemple, pour le cycle de Marie, nous avons fait des sessions pour chacun des livres. Et chaque fois, il y avait une dizaine de traducteurs présents autour de moi et on faisait des séances de travail. Et Jovanka Šotolová était présente à chaque fois. C'est peut-être une des plus fidèles avec la traductrice des Pays-Bas, Marianne Kaas, qui était là aussi à chaque fois. Ce qui est fascinant, c'est que chaque traducteur a des questions par rapport à sa propre langue, par rapport à sa propre lecture du livre, mais mes réponses sont faites collectivement. C'est-à-dire qu'on se réunit tous les matins à 11h, chaque traducteur pose ses questions, mais moi je réponds à l'ensemble du groupe. Et donc le traducteur japonais ou chinois peut tirer quelques enseignements de ce que je dis à la traductrice hollandaise, et ainsi de suite. Mon rôle se limite à essayer d'expliquer le mieux possible mes intentions par rapport au texte français. Je n'ai pas à intervenir dans la langue des traducteurs.
Vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi cinéaste. Avez-vous besoin de donner une forme visuelle à ce que vous avez écrit?
Oui, mon imagination a toujours été visuelle. C'est toujours par image que je procède. Et c'est vrai que j'ai mené très tôt les deux activités ensemble, écrire, faire des films. Maintenant, ça a un peu évolué. Je fais plus des films au sens classique, des films en 35 mm avec des gros moyens. Je fais plutôt des vidéos qui sont généralement plutôt montrées dans des musées que dans des salles de cinéma. Mais je continue à avoir envie de faire des images. Et ça reste aussi une grande passion pour moi, aussi grande que d'écrire des livres, de faire des films.
On dirait que vous étiez en mauvais terme avec certains moyens de la technique moderne, la télévision, le portable par exemple. Vous en parlez dans vos livres. Et pourtant, vous venez aujourd'hui à Prague pour présenter un projet basé sur les nouveaux médias. Est-ce un tournant dans votre rapport vis-à-vis de la technique?
Alors en réalité, j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui produit de la forme. Et en ce qui concerne Internet, assez longtemps, je me suis dit que ça ne produisait pas une véritable forme. Et que si, par exemple, un écrivain avait un site internet, c'était simplement pour annoncer les rencontres qu'il allait faire dans tel ou tel endroit, de montrer quelques photos de lui avec quelques-uns de ses confrères, des choses très pauvres du point de vue de la forme, des sortes de pages Facebook améliorées, des choses comme ça. Mais j'ai beaucoup réfléchi. Comme je suis à la fois écrivain, cinéaste, photographe, je dispose d'un corpus très large avec des textes, des images vidéo, des images photographiques, et que je pouvais peut-être donner une forme particulière. Et donc, avec Patrick Socquet, qui est un informaticien belge, il y a une vraie réflexion que nous avons menée ensemble sur qu'est-ce que pouvait être un site internet d'un écrivain qui propose une vraie forme. Et là, dans ce cas-là, ça m'a passionné parce que finalement, c'est quasiment l'équivalent d'une création, presque comme d'une œuvre d'art que nous faisons. C'est un travail qui est intéressant parce qu'il propose une forme nouvelle et une forme qui est spécifique à Internet. Et ça m'intéresse, alors que, en général, je trouve que la technique est un peu... Les objets techniques induisent plutôt une paresse intellectuelle et ne sont pas producteurs de formes nouvelles. Et que, par exemple, la télévision n'a pas apporté de vraies créations formelles spécifiques. Il existait déjà l'image animée, certes la vidéo pouvait être une vraie création artistique, mais pas la télévision, donc, et ainsi de suite. Mais pour Internet, j'ai longtemps observé avant de proposer mon propre site, et je crois que mon propre site propose une vraie création formelle, nouvelle et totalement spécifique à Internet.
Aujourd'hui, vous êtes lauréat de plusieurs prix littéraires et membre de l'Académie royale de Belgique. Dans quelle mesure ces distinctions et ces marques de reconnaissance publique sont-elles importantes pour vous ?
Elles ne sont pas particulièrement importantes, mais c'est agréable de savoir que mon travail est reconnu. Mais entre nous, je le savais qu'il était reconnu. Et je crois que la publication et la traduction de mes livres à l'étranger a plus d'importance pour moi que les récompenses ou les honneurs. Mais je les accepte avec plaisir. Et je vais par exemple être reçu à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique le mois prochain, parce que j'ai été élu déjà il y a un an, mais j'ai pas encore été reçu. Et voilà, c'est un honneur, et je vais essayer d'être à la hauteur de l'événement. Mais c'est assez anecdotique par rapport à ce travail autour des traductions qui me passionne véritablement, et dans lequel on peut apporter vraiment une forme nouvelle.
Comment voyez-vous votre avenir littéraire ? Peut-on parler de vos projets ?
Alors, en réalité, je préfère parler de ce que j'ai déjà fait, et il y a déjà beaucoup à dire, donc je reste réservé sur ce que je n'ai pas encore fait, épuiser toute la possibilité du projet en parlant au préalable. Donc je préfère garder toute l'énergie pour le projet lui-même, et non pas pour en parler avant qu'il ne soit rendu public. Et je pense que c'est important, j'aime bien aussi lorsque j'écris un livre, le garder secret, ne le montrer à personne, le relire tranquillement à mon rythme. Et souvent il s'écoule un an ou un an et demi entre le moment où le livre est fini et le moment où je le donne à l'éditeur. Et pendant un an, il y a une sorte de période un peu curieuse où le livre est fini, il est écrit entièrement, et moi je me contente de le relire, de le peaufiner, de vérifier des choses. Et il est complètement fini, mais personne ne l'a lu encore. Et j'aime ces périodes un peu intermédiaires.
C'est avec la rubrique littéraire de Václav Richter que s'achève notre magazine culturel du week-end. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous a été présenté par Denisa Tomanova. Et n'oubliez pas que vous pouvez dès à présent retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt, de nouveau à l'écoute de Radio Prague.